Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce jeudi pour le premier point de l'actualité sur Radio de la Paix. Le procès de Damana Picasse, vice-président du PPACI, a repris hier où plusieurs mesures, dont une réclusion de 20 ans, ont été requises par le procureur. Il est accusé d'avoir commandité l'attaque du 2e bataillon projectable d'Abobou. Et alors que la tension monte en Côte d'Ivoire en vue de l'élection d'octobre prochain, religieux et universitaires plaident pour la cohésion et l'unité des Ivoiriens ainsi que la transparence dans le processus électoral. Vous entendrez les propos de Mgr Alexis Toibly, évêque du diocèse d'Agboville, et le professeur Jean-Marie Kouakou, enseignant des universités, à ce sujet. Dans l'actualité sur le continent, République démocratique du Congo, les combats entre l'armée congolaise et le M23 ont repris dans le sud Kivu, des affrontements qui se concentrent autour de la localité de Niabiboué, dans le territoire de Kalé. La revue des titres des journaux de ce jeudi sera assurée par Ghislain Koulibaly. Et pour terminer cette édition, Jean-Claude Comé recevra dans l'invité de la rédaction Dr Christophe Kouamé, président exécutif de Civis Côte d'Ivoire, sur la nouvelle autorité de régulation de la commande publique, l'ARCOP, qui remplace l'ARNMP, l'autorité de régulation des marchés publics, et les implications de ce changement. Voilà pour le sommaire. Attaque du 2e bataillon projectable d'Abobo. Le procès de Damana Picasse, vice-président du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et 4 autres présumés accusés, a repris hier mercredi au tribunal de première instance d'Abidjan. Plateau, le procureur, au cours de l'audience, a requis entre autres 20 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA pour chacun des présumés accusés, ainsi qu'une privation de leurs droits civiques pendant 10 ans. Damana Adia Picasse et ses 4 autres prévenus sont accusés d'atteinte à la défense nationale, de participation à une activité mercenaire, de complot contre l'autorité et détention illégale d'armes de guerre de première catégorie. Les avocats de la défense ont quant à eux dénoncé des accusations politiques sans preuve et ont demandé l'acquittement de leurs clients. Notons que le procès a été renvoyé au 12 février prochain. Et puis à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre, l'évêque du diocèse d'Agboville, Mgr Alexis Toibly, appelle tous les acteurs politiques, quelle que soit leur obédience, à mettre de côté les conflits et à privilégier leur amour pour la Côte d'Ivoire afin de restaurer la confiance nécessaire avant le scrutin. Des efforts en ce sens seront cruciaux pour garantir une élection pacifique et sereine, selon lui.
Quelle que soit leur obédience politique, tous devraient avoir pour maître mot aimer la Côte d'Ivoire. Et si ce préalable est établi, alors tout le reste se fait en fonction de cela. Est-ce que la direction que je prends ne va pas être nuisible à la Côte d'Ivoire? Je crois que la politique, c'est une noble vocation. Il s'agit de se mettre au service du bien commun. Il n'y a pas d'idéal plus noble que celui-là. Mais le préalable doit être cela, aimer le pays. Alors si on aime le pays, quelle que soit son obédience politique, on fera tout pour ne plus que la Côte d'Ivoire ressemble à une maman qu'on oblige à boire le sang de ses propres enfants.
En conséquence,
première chose, aimer donc la Côte d'Ivoire pour éviter de la faire souffrir. Deuxièmement, il faut que nos acteurs politiques fassent l'effort de ne pas placer leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt du peuple.
À l'instant, l'évêque du diocèse d'Agboville, Mgr Alexis Toibly, qui réagissait sur comment ramener la confiance après la déclaration du président de la commission électorale indépendante sur l'impossibilité d'organiser une révision de la liste électorale avant octobre 2025. Et toujours sur le même sujet, réagissant également à cette sortie du président de la CEI, l'observateur de la scène sociopolitique qu'est le professeur Jean-Marie Kouakou insiste sur la transparence qui doit entourer ce scrutin. Et il faudrait éviter de poser des actes qui pourraient susciter la suspicion sur le processus électoral.
Nous sommes dans un processus qui va demander au peuple de donner son avis et de choisir la personne qui dirigera la plus haute fonction de ce pays. Et à ce peuple doit parler dans son entièreté, puisque dans le principe démocratique, c'est une personne, une voix. Il n'est pas possible que pour des raisons X ou Y, on occulte la voix d'un seul individu. D'autant que nous sommes dans un contexte où la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes autour de cette question de révision des listes électorales. Les partis politiques, notamment l'opposition, proposent beaucoup de choses à cette liste électorale. Dans son état actuel, je comprends difficilement pourquoi on peut ne pas faire cette liste électorale, surtout dans l'année décisive. Depuis longtemps, la Côte d'Ivoire a toujours vécu des élections présidentielles difficiles. Alors pourquoi créer quelque chose de plus et qui vienne être sujet de polémique ? Non, il faut une élection avec un contexte indiscutable.
Dans ces conditions, avec ces éclats de voix, comment pensez-vous qu'on peut ramener la confiance entre les acteurs politiques ?
C'est là la grande question. On a vraiment besoin de cette confiance. On ne peut pas faire l'économie de cette confiance. Il faut absolument qu'on fasse tout pour aller dans la transparence et qu'on organise des élections qui ne viennent pas encore troubler les gens. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier de dire que c'est impossible de le faire avant. Qu'est-ce qui empêcherait ?
Vous écoutiez professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités, enseignant à l'université de Cocody et analyste politique. Lui et monseigneur Alexis Touabli ont été joints par Soro Adams. On parle toujours de paix et de cohésion sociale avec cette fois le projet Résilience Ado Jeunes et Développement mis en œuvre par l'ONG CLIRA, Children Life in Rural Area, en collaboration avec l'UNICEF. À cet effet, un atelier a été récemment organisé à Bouna pour élaborer des modules de formation sur des thématiques comme la paix, la prévention des conflits impliquant les adolescents et les jeunes de la région. On en sait plus avec notre correspondant sur place dans le Bunkani, Jérôme Kouassi.
À Bouna, les relations entre agriculteurs et éleveurs sont marquées par des tensions récurrentes liées à la migration et à l'itinérance du bétail. Kouassi Yao Rachil, chef du projet de l'ONG CLIRA.
Cette migration-là conduit à des crises puisqu'ils viennent trouver des communautés autres qui sont pour la plupart agriculteurs.
Des tensions que l'on tente de calmer à longueur de journée, fait remarquer Sie Stanislas de l'ONG L'Étoile du Bunkani.
C'est un problème qu'on voit tous les jours. On ne cesse tant mieux que mal d'apporter des solutions.
Pour faire fort dans les mécanismes d'alerte et de prévention de conflits, il faut plus associer les jeunes les plus nombreux, ce que vise CLIRA. Kouassi Yao Rachil, chef de projet.
Des communautés y reportent dans la région du Bunkani pour envoyer les jeunes à plus s'engager pour leur communauté.
Pour ce qu'en pense cette fille blogueuse.
Sal Khadija, étudiante en marketing management et jeune blogueuse UNICEF. Nous sommes les plus nombreux. Nous aurons des supports de communication. Si les jeunes sont formés sur la paix et la cohésion sociale, il n'y aura plus de conflits entre les différentes communautés. Il y aura plus de paix et de cohésion sociale.
Certains défis à relever à l'approche de l'élection présidentielle 2025 s'inquiètent Aboudlaï Brahima.
Représentant du président du conseil régional de Bunkani. Nous sommes en année électorale. Pour ne pas qu'on instrumentalise la jeunesse, il faut dès maintenant leur parler de la paix et de la cohésion sociale.
Ce projet est cofinancé par le Fonds pour le développement de la paix, PBF, la collaboration allemande KfW et la coopération suisse DDC. Jérôme Kouassi Krou de Bouna, Radio de la Paix.
Dans le Haut-Sassandra d'Alois, le président du conseil régional mettra l'accent sur le développement et la sensibilisation des populations pour des élections apaisées. Et à l'occasion, ce week-end, des cérémonies à Doumangbe pour le lancement des travaux de reprofilage des routes et la mise à disposition de nouvelles salles de classe. Eh bien, le ministre Mamadou Touré a exhorté les habitants à se présenter comme des modèles de cohésion. On en sait plus dans ce compte-rendu de notre correspondant. Correspondant Jean-Noël Kwame.
À Doumangbe, une localité dans le département de Zoukoubou, le président du conseil régional du Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré, a réceptionné et lancé des travaux de reprofilage de routes pour le désenclavement de cette localité.
Je suis venu réceptionner cette voie et lancer les travaux de reprofilage lourd de l'axe Doumangbe au Haut 2. En 2024, dans la région, plus de 343 km de routes ont été reprofilées pour à peu près 700 millions de
France CFA. Grâce à la route, vous avez la possibilité d'évacuer normalement vos produits, d'évacuer les malades. Je me réjouis que vous ne soyez pas obligé de traverser le fleuve pour aller à Zougoubo.
À Coréa et à Zokogué, le ministre a livré à chacune de ces localités un bâtiment de 3 salles de classe avec des bureaux et des latrines.
Le conseil régional a investi dans le Haut Sassandra pour l'éducation 1 980 411 151 francs CFA. Pour les élections qui vont venir en 2025, il ne doit pas avoir par là que ceux qui gagnent puissent continuer à développer notre pays. On a une région qui était difficile. On a fait élection. Ceux qui ont perdu, on reconnaît qu'ils ont perdu. Ceux qui ont gagné, aujourd'hui on travaille tous ensemble. C'est cet exemple que le Haut Sassandra doit donner à l'ensemble de la classe politique ivoirienne.
Le président du conseil régional entend poursuivre les actions de développement et de désenclavement de la région, mais également multiplier les messages de non-violence pour une élection présidentielle apaisée dans la région du Haut-Sassandra et ailleurs en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, de retour de Zokogué, Radio de la Paix.
Et dans la région du Gontougo, en vue de faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations de Soko, localité située à une 10aine de kilomètres de Bondoukou, des travaux de construction d'un nouveau forage ont été lancés et l'œuvre a été remise aux populations en début de mois au cours d'une cérémonie. Et à cette occasion, le maire de la commune, Azumana Ouattara, a appelé les jeunes de la localité au respect des institutions de la République. Le compte-rendu avec Sindou Ouattara.
Ce nouveau forage vient porter à 3 le nombre de forages réalisés par le maire de la commune de Bondoukou en vue d'atténuer les souffrances des populations de Soko en termes d'eau potable. Le maire Azumana Ouattara n'entend pas s'arrêter à cette action. Prenant la parole, il a dévoilé un pan de ses ambitions pour cette localité.
On prévoit faire la maternelle cette année, des forages pour l'ensemble des quartiers. On prévoit aussi trouver des foyers de jeunes pour la jeunesse.
On va commencer à financer la jeunesse de Soukous.
Poursuivant, il a invité les jeunes de ce village frontalier au respect de l'autorité, faisant référence à une situation récente d'égard de comportement de ceux-ci vis-à-vis des forces de l'ordre.
Vous prouvez que vous êtes discipliné, vous aimez votre pays, vous êtes en parfaite harmonie avec les forces de l'ordre. Je ne veux plus de problèmes de jeunesse avec les forces de l'ordre.
Au nom du ministre d'État Kobe Nkwasi Adjumani, le préfet de la région du Gontougo a salué ces réalisations communautaires qui contribuent au développement local tout en exhortant les populations à l'union et à la paix. Kwadio Gbangbo André.
L'accès à l'eau potable essentiel à la vie sera renforcé, améliorant les conditions de vie. Je ne peux qu'être fier de ces actions au profit du développement. Faites taire vos palabres. Faites en sorte que vos enfants regardent la même direction, la direction du développement.
Outre l'inauguration, le préfet de Bondoukou a procédé à la pose de la première pierre d'un 4e forage et à l'investiture de la présidente des femmes de Soko. Sindou Ouattara, Bondoukou, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, les combats entre l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars M23 ont repris dans le sud de Kivu. Des affrontements qui se concentrent autour de la localité de Niabiboué, dans le territoire de Kalehi. Nos positions ont été attaquées, a affirmé le porte-parole du gouvernement congolais, Patrice Muyaya, qui a ajouté que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même unilatéralement décrété le 3 février dernier. Les affrontements ont donc commencé aux premières heures hier mercredi dans le territoire de Kalehe et selon le gouvernement, des renforts rwandais auraient traversé la frontière à Goma dans la nuit pour venir appuyer cette offensive sur les populations des FRDC, des forces armées de la République démocratique du Congo. De retour dans le studio de Radio de la Paix pour retrouver Ghislain Koulibaly qui s'est chargé aujourd'hui de parcourir pour vous les unes des journaux de ce jeudi. Bonjour Ghislain.
Bonjour Linda, bonjour à toutes et à tous.
Alors que dit la revue des titres des journaux ce matin?
Alors ce matin, nous ouvrons avec le procès de l'attaque du 2e bataillon d'Anonkwa Kouté. 20 ans de prison requis contre Damana Picasse et ses co-accusés. C'est ce que nous apprend Soir Info. Les co-accusés sont au nombre de 4, nous dit l'Inter, et selon le réquisitoire, on note 10 ans de privation de leurs droits civiques et 10 millions de francs CFA d'amende chacun. Autre information, le procès a été renvoyé au 12 février, comme nous le signifie le nouveau réveil. Le quotidien Le Temps réagit et nous parle d'une traque des opposants. Alors quittons l'instance judiciaire et intéressons-nous aux actions parlementaires. Une année 2025 bien chargée pour les deux chambres, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est ce que nous apprend le Rassemblement. Sénateurs et députés adoptent leur plan de travail, chaque bureau reconduit. Martel Fraternité Matin. Et parlant de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale, le mandat affiche le calendrier des travaux dévoilé hier avec la liste complète des membres du bureau, mentionnant qu'Adama Big Togo apporte une innovation. Parlant de la Chambre haute, Soir Info indique que Kandia Camara fait approuver le premier chronogramme d'activité de 2025 avec 5 points majeurs et son bureau reconduit pour un an. Et sur le plan diplomatique, l'axe Abidjan-Doha se renforce. C'est ce qu'annonce l'Expression. La Côte d'Ivoire et le Qatar signent un mémorandum d'entente, comme nous le signifie le Patriote. Soir Info revient également sur cette coopération bilatérale. Et parlant de coopération, l'Inter nous propose cette interview du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kakou. Et parlant des relations avec le Burkina Faso, l'AES et même du conflit au Congo, le ministre diplomate déclare « Jamais la Côte d'Ivoire ne sera une terre de déstabilisation ». Et puis Linda Éducation, les journées carrières ont été lancées hier à Abouasso. À quoi servent ces journées? S'interroge le Rassemblement. Fraternité Matin mentionne que le gouvernement invite les élèves à faire les meilleurs choix, précisant que 30 000 élèves sont attendus.
Merci à vous, Ghislain Koulibaly, pour cette revue des titres de nos quotidiens de ce jeudi matin. Nous pourrons vous retrouver dans l'édition de 8 heures pour le même exercice. Dans l'invité de la rédaction, pour terminer, on s'intéresse à la gestion efficiente de la commande publique en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation des marchés publics, l'ARNMP, qui est devenue récemment l'autorité de régulation de la commande publique, l'ARCOP. Qu'est-ce qui pourrait changer dans la gestion de la commande publique avec cette nouvelle structure créée par décision du gouvernement? Docteur Christophe Kwame, invité de la rédaction et président exécutif de Civis Côte d'Ivoire, nous apporte des éléments de réponse dans un entretien, sinon cet entretien mené par Jean-Claude Comé.
Docteur Christophe Comé, bonjour.
Bonjour.
Il y a une réforme au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARNP, qui devient aujourd'hui l'autorité de régulation de la commande publique, en abrégé ARCOP. Alors la commande publique, qu'est-ce que c'est?
En réalité, l'État, pour se développer, fait appel à des privés qui peuvent être des PME, des grandes entreprises, pour réaliser des œuvres dans le cadre public. Une école, un pont, l'État ne va pas passer son temps à prendre les membres de l'administration publique pour le faire. Donc, il concède ces œuvres-là à des privés. Donc, un État passe des marchés publics avec des privés. Et le deuxième point que l'État fait, c'est une délégation de services publics à travers des contrats de concession et à travers des partenariats publics-privés pour que le privé réalise des infrastructures pour le compte de l'intérêt général. Donc, c'est ce vocable qui s'appelle la commande publique.
Justement, pourquoi une autorité de régulation de la commande publique?
En réalité, l'autorité administrative indépendante qui était l'ARNP, rien qu'avec le terme marché public, n'avait pas accès relativement à son champ d'action, je dirais au contraire des concessions aux partenariats public-privé. Donc nous pensons que c'est juste une remise à niveau réglementaire qui fait entrer dans le champ d'action de l'autorité administrative indépendante de régulation des marchés publics à régulation de la commande publique qui est plus général, et à l'intérieur de la commande publique, nous avons les marchés publics, nous avons le contrat de concession, nous avons le partenariat public-privé. En réalité, le marché public plus la délégation des services publics représente la commande publique, et cette commande publique va être dorénavant gérée par l'autorité administrative indépendante qui s'appelle l'ARCOP.
Alors, en regardant dans le rétroviseur, l'ARNP existe depuis 2018. Si on vous demandait aujourd'hui de faire un point de son efficacité, qu'est-ce que vous pourriez dire?
L'ARNP a transmis son rapport 2023 à Civis Côte d'Ivoire. Quand nous regardons le passé de l'ARNP, nous constatons que en matière de formation et d'information, l'ARNP a sensibilisé les acteurs des marchés publics en Côte d'Ivoire. Nous constatons dans le rapport que l'ARNP a émis des sanctions contre des PME et des entreprises privées en Côte d'Ivoire. Nous constatons qu'il y a une liste noire d'entreprises qui ont été sanctionnées et qui sont dans une période où elles ne peuvent plus participer au marché public. Et enfin, nous constatons que l'ARNP a, je dirais, fait arrêter des marchés qui étaient déjà passés. C'est-à-dire l'ARNP considère que ces marchés n'ont pas été passés relativement à la réglementation existante. Donc, en conclusion, nous sommes satisfaits de l'évolution du travail de l'ARNP. Ce qui manque dans le rapport de l'ARNP, comme dans le rapport de la Cour des comptes, comme dans le rapport de la majorité des autorités administratives indépendantes ivoiriennes, c'est la compréhension qualitative de la gouvernance des acteurs. Les acteurs sont encore dans un schéma du passé relativement à la gouvernance.
Justement, cette nouvelle autorité, l'ARCOP, donc, aura pour mission donc une surveillance plus rigoureuse des processus de passation et d'exécution des marchés. Pour vous, qu'est-ce qui va changer concrètement?
Une première chose, par exemple, la découverte du gisement baleine. Je donne cet exemple pour que tous vos auditeurs comprennent. La signature de ce type de contrat qui fait 6 000 milliards de francs CFA nécessite des qualités de négociateur, des qualités juridiques, des qualités en matière d'ingénierie. Et donc, nous pensons que l'ARCOP doit pouvoir renforcer les capacités de ses acteurs propres, les membres de l'ARCOP. Il faut sensibiliser ces personnels-là pour qu'ils soient capables de pouvoir signer ce type de contrat. Deuxièmement, il faut aussi que l'ARCOP puisse entretenir les relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux qui agissent dans le domaine des marchés publics et les délégations de services publics. Et enfin, il faut que l'ARCOP fasse peut-être du benchmarking relativement aux découvertes. Et j'explique mon idée, c'est que très souvent, c'est les entreprises internationales qui mettent 100% de leur argent pour faire la recherche et le développement. À la fin, quand ils ont trouvé de l'or, du diamant ou du pétrole, ils se payent sur la marchandise et souvent, le pays concessionnaire comme la Côte d'Ivoire ou autre a souvent 10, 15, 20% des 100% de ressources financières que le pétrole va donner, que l'or va donner ou le diamant va donner. Il serait peut-être intéressant, au vu de ce qui se fait ailleurs, que l'ARCOP très vite se saisisse de ces contrats de concession, les ajuste au profit de la Côte d'Ivoire. Donc voilà plusieurs pistes d'information que je donne à l'ARCOP naissant pour qu'elle puisse faire ce benchmarking pour que la Côte d'Ivoire gagne dans le cadre précis des marchés publics, des contrats de concession et des partenariats privés.
Docteur Christophe Kwame, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie et à bientôt.
À bientôt.
C'était Dr Christophe Kwame, président exécutif de Civis Côte d'Ivoire, invité de la rédaction. Il répondait aux questions de Jean-Claude Comé. Et c'est la fin de ce journal dont voici le rappel de l'essentiel. Le procès de Damana Picasse dans l'affaire de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo, vice-président du PPACI, a repris hier où plusieurs mesures, dont une réclusion de 20 ans, ont été requises par le procureur. Il est accusé d'avoir commandité l'attaque du 2e bataillon projectable d'Abobo. Et puis alors que la tension monte en Côte d'Ivoire en vue de l'élection d'octobre prochain, religieux et universitaires, notamment Mgr Alexis Touabli, évêque du diocèse d'Aboville, et le professeur Jean-Marie Kouakou, enseignant à l'université de Cocody, plaident pour la cohésion et l'unité des Ivoiriens, ainsi que la transparence dans le processus électoral. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.